Bonjour, c'est Fred, vous êtes bien sur CFM Radio, dans l'émission « Combien de temps encore ?». Alors aujourd'hui, je vais recevoir Philippe, déjà pour faire le point sur les manifestations devant l'abattoir de Montauban. Et Philippe, donc, il représente Toulouse Animal Save, et qui nous précisera et décrira donc, cette association. Mais pour l'instant, on va recevoir Clément. Donc Clément, il représente l'antenne de Toulouse, de l'association Paris Animal Zoopolis, et donc est une association qui, à Toulouse et en Occitanie, est pour des cirques sans animaux. Bonjour. Donc je vais vous demander de vous présenter peut-être un peu plus précisément.
Oui, bonjour. Donc, je suis Clément, je suis membre de l'association Paris Animosopolis, plus particulièrement responsable sur l'antenne du Sud-Ouest, Toulouse, Midi-Pyrénées, enfin, maintenant Occitanie. Notre association Paris Animosopolis traite des questions de souffrance animale sur le territoire de la ville de Paris dans sa version initiale. Maintenant, elle s'étend à tout le territoire. Et notre approche est résolument politique. Voilà. Nous menons actuellement 5 campagnes, d'ailleurs. Et à l'origine, en 2015, nous avons créé le collectif Paris sans captivité animale en lançant une pétition citoyenne dans le but d'inciter la ville de Paris à ne plus autoriser les spectacles des cirques avec animaux sauvages sur son territoire. Et ce collectif est devenu par la suite une association régie par la loi du 1er juillet 1901, Paris Animosopolis, au début de l'année 2017. Voilà, c'est un petit condensé.
D'accord. Rapide. Donc voilà, et ce qui est important pour nous, c'est donc que tu es responsable, tu t'occupes de l'antenne Occitanie, avec de nombreuses actions, manifestations, notamment il y en a eu à Agen, il y a eu Valence d'Agen. On va peut-être parler tout de suite avant de reprendre vraiment le thème des animaux sauvages captifs dans les cirques. On peut peut-être parler quand même de ce qui s'est passé à Montauban au niveau de du cirque Muller et d'une manifestation non violente qui a quand même eu lieu mais après de nombreuses péripéties.
Oui, tout à fait. Donc oui, c'est important de le signaler. Dans Montauban, nous avons manifesté pacifiquement et sans violence comme à l'accoutumée. Simplement, le préfet a interdit le périmètre de manifestation en repoussant notre manifestation à près de, je veux dire, 1 kilomètre du cirque, quoi. Moyennant quoi, nous avons occupé un rond-point, mais les voitures défilaient sans vraiment qu'on puisse se faire entendre, en mégaphone ou en tractant. Et donc, cela fait suite, d'après les renseignements, à la pression exercée sur la préfecture par les circassiens, qui ont menacé donc de faire venir, disons, une cinquantaine de forains de Limoges, voilà, et pour nous refroidir entre guillemets et nous empêcher de manifester et exprimer simplement nos convictions, qui sont justes et équitables et vraiment d'actualité, pour l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Puisqu'effectivement, il y a une grosse problématique à ce sujet-là. On y reviendra, c'est sûr, mais je voudrais dire qu'à l'inverse, à Boé, c'est-à-dire une commune aux portes d'Agen, avec le même cirque, le préfet a autorisé, alors c'est un département différent, ceci explique peut-être cela, mais le préfet a autorisé la manifestation qui s'est déroulée tout à fait normalement, tout à fait calmement, voilà, dans la sérénité, a autorisé la manifestation à être devant le cirque et ainsi pouvoir informer le public de ce qui se passe derrière le rideau. Puisque le public, les jeunes enfants, comme les parents qui les accompagnent, ne savent pas du tout ce qui se passe derrière le rideau. Ah, et la violence du dressage.
Voilà. Donc les animaux sauvages ou pas, on y reviendra, oui. Dans les cirques, qu'est-ce qui se cache derrière les paillettes, effectivement?
Voilà, oui, donc la question, voilà. La grande question est là. Parce que, bon, outre le fait, quand même, il faut le dire, que le fait que ces animaux sauvages, que ce soit les éléphants, les primates, les félins, les tigres, les lions, etc., sont enfermés dans des cages qui ne sont pas adaptées, qui sont minuscules, qui sont trimballées sur des kilomètres et des kilomètres par tous les temps, des kilomètres et des kilomètres, dans des conditions souvent misérables. À titre d'exemple, je rappellerai simplement l'éléphante qui s'est fait victime d'accident de la route en Espagne, qui est morte sur l'accident. Et les trois autres éléphants sont restés en vie. Mais donc, pour revenir à ce qui se passe derrière le rideau et au-delà des paillettes, effectivement, il y a la violence du dressage, car un animal sauvage, que ce soit l'éléphant ou le tigre ou le lion, n'exécute pas ces numéros, dans la nature. Faire passer un tigre ou un lion au travers d'un cercle de feu, alors qu'on sait que le feu, l'animal fuit le feu, quoi. S'il a horreur, il a l'appréhension, il a la peur du feu, quoi. Donc, le faire passer dans ces cercles de feu, c'est totalement contre nature. Donc, pour arriver à ça, il faut vraiment manier le fouet, la trique, et pour l'éléphant, ça s'appelle l'angus, c'est-à-dire une pointe acérée qui est plantée dans la patte de l'éléphant pour le soumettre. Donc voilà, et je renverrai simplement au témoignage d'un dompteur, Vladimir Dubiakin, puisque le dressage est partout dans le monde le même, il ne faut pas se le cacher, quoi. Un animal sauvage, c'est un animal sauvage, il a son instinct, il a ses règles, ses lois, donc il faut le soumettre pour arriver à ça, et donc ce témoignage de Vladimir Dubiakin est tout à fait intéressant, parce qu'il montre comment on fait danser, par exemple, un ours, sur les pattes arrière, voilà, et, le soumettant très jeune, le suspendant sur les pattes arrière dès son jeune âge, etc., etc. Donc là, vraiment, ça, le public ne sait pas ce qui se passe. Et les enfants qui vont voir ça, ben, ne sait pas. Pour lui, l'animal est là, il est consentant, il voit un animal sauvage, bon, qui est là, qui fait son numéro. Pour lui, tout va bien, il voit pas la difficulté, il voit pas le problème. Et les adultes, c'est pareil. Beaucoup qu'on interroge ne savent pas ce qu'il y a derrière. Et comme je le dis souvent, c'est pas avec une rose et un chamallow, comme le donne un dresseur d'ours soi-disant, qu'on fait un dressage, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a les gènes qui parlent. Et dans un animal sauvage, c'est un animal sauvage. Voilà.
Et puis des postures qui sont extrêmement douloureuses, ne serait-ce que. Voilà. Donc il faut qu'il ait beaucoup plus peur des représailles. Il faut qu'il ait une peur terrible de ce qui va se passer s'il fait pas le numéro, parce que le numéro étant très douloureux, ça veut dire que la violence du dressage est encore plus douloureuse, parce que il sait que s'il ne fait pas, ben il aura les représailles.
Et j'ai encore à l'image l'éléphant qui s'assit sur ses fesses là, sait qu'après ça cause des problèmes pulmonaires ou de cœur, etc. Ils sont malades, enfin ils finissent, voilà.
Donc c'est dramatique, la violence du dressage, c'est dramatique, c'est plus jeune âge, c'est répétitif, ça c'est le point fort, disons. Et puis il y a la violence, la maltraitance de la captivité, hein, comme vous disiez, qui est quotidienne, enfin voilà, comme le dressage d'ailleurs et comme les numéros, qui est quotidienne. Et ça, ils subissent ça toute leur vie, âgés. Puisqu'on a des animaux âgés qui continuent à être exploités.
On a l'exemple de Samba, qui est une éléphante qui est malade, je crois qu'elle est aveugle aussi, et qui continue ses numéros, quoi. Et je voudrais dire aussi, si je me permettre, je veux dire aussi que voir les animaux dans cet état-là, c'est complètement antipédagogique par rapport à un enfant, puisque l'enfant, lui, pense que c'est normal, tout ça, que c'est normal. Donc il n'a pas une orientation de l'animal sauvage. Et quand on voit un animal sauvage dans la nature, un éléphant ou un lion, quand on voit les sociétés matriarcales des éléphants qui vivent en famille, quoi, ben c'est quoi de plus magnifique, quoi. C'est pas parce qu'on voit pas un animal sauvage en chair et en os, et en plus dans un cirque, que disons on a raté sa vie, quoi. Voilà.
Exactement. Il y a des documentaires. De toute façon, voir un animal dans un cirque, c'est pas voir un animal sauvage. Ça n'a aucune vertu pédagogique, c'est ce que vous disiez.
Tout à fait.
Au contraire. C'est même c'est enseigner aux enfants comment soumettre un autre être vivant, le ridiculiser,
Bien sûr, voilà.
Lui faire faire des numéros complètement contre. Donc c'est même anti-pédagogique. par rapport
tout à fait, voilà.
Surtout que maintenant, voilà. On est vraiment dans une pédagogie du respect du vivant, des êtres vivants. Donc, c'est complètement aberrant.
Ben oui. La biodiversité,
voilà, etc. de continuer oui. à prétendre à une oui. à une activité pédagogique, c'est aberrant,
oui.
c'est un contresens.
Et puis si je puis me permettre, je voudrais rappeler quand même qu'en 2015, oui, c'est en 2015, que la Fédération des vétérinaires européens s'est positionnée clairement et sans ambiguïté sur le sujet des animaux sauvages dans les cirques, et elle recommande à toutes les autorités compétentes européennes et nationales d'interdire l'utilisation des mammifères sauvages dans les cirques itinérants dans toute l'Europe. Et ce, compte tenu de l'impossibilité absolue de répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux. Voilà.
Tout à fait.
Donc là, je pense que les vétérinaires, quand même, savent, sur la question animale, quand même, savent de quoi ils parlent.
Tout à fait. Tout voilà. à fait. On va faire juste une pause musicale et on reprend tout de suite après l'entretien.
We walked for hours in winter's arms. Broke your ankle, you fell with pride. You sent me a picture on which you cried. It's hard not to answer, I'll give a try. I'm selfish and jealous. Is that a crime? I'm selfish and jealous. Pleasure is mine. You'll share all your secrets, and I'll keep mine. Spend life together, just we and I.
Vous êtes bien sur CFM Radio, dans l'émission Combien de temps encore, et on reprend notre entretien avec Clément de Paris Animal Zoopolis, antenne Toulouse-Occitanie. Donc, ce mal-être, cette maltraitance, cette violence, de toute façon, elle est visible. Ça frise c'est la dépression, la folie. Elle est visible dans les marques de stéréotypie que les animaux pratiquent, hein, c'est-à-dire le balancement de l'éléphant, les félins qui tournent en rond. Donc là, on est proche de la folie pour l'animal.
Tout à fait, oui, tout à fait.
Et ça revient. Donc c'est bien ce qu'on bien mis en évidence les vétérinaires, hein, impossibilité de subvenir à leurs besoins physiques, physiologiques et psychologiques.
Oui,
donc je pense que là, maintenant, alors il y a quand même un pourcentage de plus important de personnes qui sont contre.
Oui.
Voilà.
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, je rappellerai à ce sujet quand même le sondage en 2019 par l'IFOP et pour la Fondation 30 millions d'amis. Ce sondage qui précise que 67% de la population française souhaite l'interdiction de la présence des animaux sauvages dans les cirques. Voilà, donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Et c'est un grave problème, puisque en parallèle, les politiques n'ont pas pris la mesure de cet état de fait, quoi, de ce sondage, quand même, qui est clair et net. Alors maintenant, quand même, bon, il faut souligner quand même les avancées qu'on a. Puisque bon, Paris Animal Zoopolis travaille depuis près de 4 ans maintenant au niveau de Paris, qui est la ville symbole, la ville de l'État de la France. et qui donc il, en 2022, à partir de 2022, interdit les cirques avec animaux sauvages sur sa, son territoire, c'est-à-dire sur la ville de Paris, voilà, et qui même va un peu plus loin en attribuant des subventions pour que les cirques avec animaux sauvages se reconvertissent. Et le premier, ça a été le cirque Pender qui est établi à Paris sur la pelouse de Vincennes, pelouse de Reuilly, qui a souscrit effectivement à cet état de fait et qui d'ailleurs n'a plus d'animaux sauvages, n'a plus d'animaux sauvages, de numéros d'animaux sauvages sous son chapiteau.
D'accord.
Voilà, et d'autres villes se positionnent aussi clairement, comme je citerai Strasbourg et Montpellier, qui sont avant-gardistes, Lille, même Lille, Dijon, etc., et qui refusent justement l'installation d'animaux sauvages dans les cirques. Et pour information complémentaire aussi, je veux signaler quand même que Montpellier, avec son maire, donc Philippe Sorel, qui s'est déjà prononcé depuis plus d'un an pour l'interdiction des animaux sauvages sur sa commune et qui n'accueille plus de cirque animaux sauvages, accueille maintenant à partir du 14 avril l'éco-cirque de André-Joseph Bouglione et Sandrine Bouglione, c'est André-Joseph Bouglione qui est la cinquième génération de dompteurs quand même, voilà. Il accueille cet éco-cirque, donc sans animaux sauvages, avec un village pédagogique, donc voilà, qui va enseigner la question animale et préciser tout le contour de la problématique, voilà. Et donc, qui est vraiment avant-gardiste, et ça sera sa grande première à Montpellier.
Voilà. Il s'est bien positionné. D'ailleurs, il s'est courageusement positionné voilà, pour des cirques sans animaux.
Oui, il faut le dire. Oui, ouais. C'est vrai. C'est tout à fait ça. Voilà. Tout à fait.
Ce qui n'a pas dû être très facile dans le milieu. Voilà, je pense qu'il a essuyé pas mal de difficultés et de menaces.
Oui, oui.
Voilà, mais bon,
bien sûr.
Il a tenu bon. Donc c'est
il vraiment... a tenu, voilà, il a tenu bon. Puis je veux signaler qu'à l'inverse, la mairie de Toulouse, et nous avons un courrier justement ce dernier mois, bon, avec les vœux justement de son maire, M. Moudenc, qui lui par contre, bon, ce courrier, bon, quand même, je veux le dire, complètement creux, puisqu'il se prononce pas sur la question, et puis il renvoie à légiférer l'État, quoi, en disant que c'est la question de l'État qui doit légiférer. Il ne veut pas s'engager sur les cirques en disant que, voilà, lui, l'accueil des cirques, mais bon, tout est en règle, tout va bien, il ne voit pas le problème. Donc voilà, et puis il nous signale qu'une des conseillères d'un Marty siège à la commission animaux du gouvernement, comme siège Paris Animosopolis, et que voilà, mais malgré tout, rien n'est fait, il se positionne pas. Voilà. Voilà où c'est condamné, sur Toulouse. Bon.
D'accord.
Ce qui est scandaleux quand même, voilà, ouais, par rapport à la question.
Ouais. Alors après, ça soulève le problème de, d'une loi nationale. Effectivement,
oui, voilà,
qui maintenant doit vraiment, qui est urgente.
Et, oui, qui est urgente.
Voilà,
oui,
c'est ce que vous dites, c'est qu'il faut absolument, à un moment donné, que le gouvernement écoute, déjà, et entende le souhait de la majorité, voilà, d'une plus que la majorité de citoyens.
Voilà, et là je veux rappeler quand même, deux points importants, c'est-à-dire, le premier point, en Europe, divers pays, je veux dire, de nombreux pays ont légiféré sur la question, et depuis, pour certains, depuis pas mal d'années. Alors, je veux citer au hasard, enfin, le Portugal, l'Irlande, la Belgique, l'Autriche, la Croatie, etc., etc. Et, voilà, mais des pays de l'Est qui sont avant-gardistes sur la question, qui ont légiféré et qui interdisent les animaux sauvages dans les cirques. Et donc, la France, que fait-elle? Elle est encore à la traîne. Malgré la Déclaration universelle des droits de l'homme, quand même, qui a été faite depuis longtemps, mais là, sur les animaux, ben, on est totalement absent. Donc, c'est quand même aberrant qu'à notre siècle, avec la question, comme vous dites, et comme on l'a rappelé, avec ce sondage, 67% de la population qui est contre, que rien ne soit fait, quoi, au niveau du gouvernement. Alors, les mesures doivent être rendues initialement par la ministre de l'écologie, maintenant, c'est Madame Borne. Voilà, ça devait être rendu en septembre, après ça a été repoussé en octobre, après en décembre, maintenant ça serait en janvier, mais enfin on est quand même le 15 janvier, pour l'instant on n'a rien du tout. Voilà, Paris Animosopolis a été reçu d'ailleurs ce sujet à l'Élysée et bon par le conseiller Macron, mais bon, on ne sait pas ce qui va en sortir parce que bon, il souffle le chaud et le froid, donc on peut rien dire actuellement. Voilà où on en est. Et le deuxième volet, c'est que le deuxième volet qui est important aussi, c'est qu'aujourd'hui, les cirques évoluent. Et comme toute profession, dans le temps, les professions ont tombé. Le maréchal ferrant a disparu, on n'a plus de tractage avec les chevaux, les charrues, etc., etc. L'automobile a évolué, enfin, voilà, les moyens de locomotion ont évolué, etc., etc. Et donc aujourd'hui, il faut noter quand même que les cirques sans animaux, ils sont de plus en plus nombreux. Je citerai au hasard le cirque Phénix, le cirque du Soleil, moi qui sont basés à Paris mais qui vont faire des tournées aussi, le cirque Plume, le cirque de Paname, qui a eu d'ailleurs une émission à la télévision en prime time adossée à une autre émission One Voice, je crois, enfin une émission dans ce genre en prime time 8h30, et donc il présentait des numéros, mais vraiment des numéros fantastiques, de trapézistes, de jonglage, de contorsionnistes, c'est vraiment magnifique. Là, le cirque Roncalli, qui évolue principalement dans l'Est ou en Allemagne, qui présente des hologrammes, par exemple. Des hologrammes fantastiques d'éléphants, d'animaux sauvages. C'est vraiment magnifique, quoi. Donc, les cirques évoluent. Et comme on le dit dans les slogans, si tu es artiste, va sur la piste. Et donc, voilà. Dans le cirque, il y a des artistes dans les cirques, même le cirque avec les animaux. On n'est pas contre les cirques. Nous sommes pour, je veux le dire et le répéter, nous sommes pour. Les arts du cirque sont variés, sont ancestraux, sont traditionnels, et c'est magnifique, le jonglage, le trapéziste, les clowns, les magiciens, c'est la magie, et les enfants adorent ça, les enfants adorent.
Simplement avec des êtres consentants, des artistes
voilà,
consentants.
Voilà, c'est des êtres consentants, voilà, et qui ont pratiqué, ouais. Qui possèdent ces arts du cirque, et là c'est magnifique, voilà, c'est magnifique, on s'en redemande, enfin bon... On a tous connu un peu ça. Et donc, c'est magnifique. C'est là qu'il faut s'orienter. C'est là.
Tout à fait.
Les arts du ciel, c'est ça, c'est les artistes, voilà. C'est ça. Et non pas traiter les animaux comme des jouets complètement
servis,
comme des objets. Voilà. Alors que je le répète, aussi, et je veux le souligner, la déclaration de Cambridge, qui date de, je crois que c'est 2015 de mémoire, devant un parterre de scientifiques divers et variés, a établi que l'animal, qui est notre frère, finalement, l'homme est un animal comme les autres, mais c'est un être sentient. C'est-à-dire, sentient, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'il est sensible, qu'il a sa vie propre, ses intérêts propres, il ressent les joies et les peines et la douleur, il a une société, certains pratiquent une culture, on le sait, même les poissons sont des êtres sentients, qui sont sensibles, qui sont des artistes. Je sais plus quel poisson crée une rosace, vraiment, au fond de la mer, pour que la femelle vienne y pondre des œufs, c'est vraiment magnifique, voilà. Donc, l'animal doit être respecté. J'espère qu'on pourra revenir après à la théorie de Zoopolis,
voilà, on va
la
faire
théorie politique, voilà, des droits des animaux.
On fait juste une petite pause et on va justement élargir, on va donner un petit peu une vision d'un livre important. On fait juste une pause musicale.
I love you, babe.
Vous êtes bien sur CFM Radio dans l'émission Combien de temps encore, et on reprend donc notre entretien avec Clément de Paris Animal Zoopolis de l'antenne Occitanie Toulouse. Alors, je voudrais, avant de parler donc de, effectivement de, bah, des animaux en général en tant qu'êtres vivants, sensibles, doués d'une sensibilité physique et psychologique. Et émotionnel. Je voudrais aussi très vite, parce que je voudrais après qu'on parle un petit peu. On refera une émission sur Zoopolis. Mais il y a quand même un argument que je voudrais quand même reprendre. C'est l'argument de plus en plus fréquent des circassiens. D'ailleurs, Pierre Rigaud s'est expliqué là-dessus sur la chaîne d'Émeric Quéron. Comme quoi, les animaux nés en captivité ne sont plus des animaux sauvages. Donc, c'est pas grave. On peut continuer la maltraitance, la violence du dressage. Alors, d'une part, c'est complètement faux. Un animal sauvage, il faut des années et des années, des générations, avant qu'il soit sauvage. Oui. Et puis, élargissons, ça nous permet peut-être d'élargir le problème. Il n'y a pas que les animaux sauvages qui ne doivent pas être exploités. Je tout pense qu'aucun animal, sauvage ou pas, ne doit être exploité dans un cirque. Voilà. Je pense que c'est important. Et ça reprend justement ce dont on va parler. Hein. C'est-à-dire qu'un animal, sauvage ou pas, il n'a rien à faire. Il n'a pas à passer sa vie derrière une cage, à faire des exercices ou des pitreries contre nature, avec un dressage très coercitif, c'est-à-dire très violent. Non, c'est pas sa vie. Donc voilà, donc il y a le livre Zoopolis, d'où voilà, je vous laisse expliquer un petit peu. D'ailleurs, l'association a tiré son nom de ce livre, donc je vous laisse le présenter. On n'aura pas le temps de le développer, mais moi je vous propose de faire une autre émission sur ce bouquin, parce que c'est très dense. Comme moi je l'ai pas encore lu. Hein.
Oui, bien sûr. Voilà. Non, c'est
très dense. Voilà. Oui.
C'est intéressant. Mais après, il y aurait peut-être aussi à parler, à faire dire. Une autre émission par rapport au cétacé et à l'enfermement.
Voilà. Tout ce qu'on a dit, c'est tout à fait valable pour les delphinariums. Ce sont des animaux sauvages qui ont. Oui, tout à fait. Les cirques ou delphinariums. Hein. Le problème est le même pour les dauphins et les orques.
Oui, parce que là, sur les delphinariums, on a des gros problèmes. Il y a le Marineland en Tibre, le parc Astérix en Nord, la planète sauvage aussi où il y a des dauphins. Et quand même, je veux signaler que ces animaux aquatiques emprisonnés, avec par exemple des otaries aussi, il y a eu au parc Astérix, tenez-vous bien quand même, 13 dauphins et au moins 6 otaries qui sont morts au parc Astérix depuis sa création quand même. Donc voilà. Donc ils ont des espaces de vie totalement impossibles, quoi. C'est comme les cages pour les cirques. Mais là, c'est un bassin en plus avec de l'eau chlorée, etc. Donc la nuit, l'absence de relation avec les congénères. Voilà, perte d'appétit et de poids, enfin, ulcères, maladies. Voilà, ils sont traités avec des antibiotiques, etc., etc. Et donc ça conduit à de nombreux décès, à des maladies pulmonaires, des maladies rénales. Du problème d'hydratation.
Des suicides aussi. Il y a certains dauphins qui refusent de s'alimenter. Donc, en fait, c'est un suicide. C'est des dauphins qui se suicident.
Voilà. Et là aussi, il y a des témoignages d'anciens dresseurs comme John Hargrove au Marineland d'Antibes qui relatent tout ça. Et qui, par exemple, l'orque Tilikum, qui est le protagoniste du documentaire, je ne sais pas si vous connaissez le documentaire Blackfish.
Oui.
Voilà, Blackfish, qui est à l'origine finalement de meurtre par rapport à son dresseur, quoi. Hein. Et entre autres, on voit l'orque qui entraîne son dresseur dans les fonds et qui finalement arrive à le tuer puisque, il souffre de maladies, enfin, etc. Il est pas bien, quoi. Et donc voilà. Donc il a 3 meurtres à son actif, quand même. Donc, les derniers remontent à 2010. Voilà, un plein spectacle, hein. Et ça. Et puis je fais une incise peut-être, je veux pas être trop loin, mais je rappellerai, c'est l'histoire de mes vies. Le 24 novembre dernier, là, 24 anniversaire, étant le 24 novembre dernier, où effectivement, Lévi s'est échappé du cirque, son cirque en plein Paris, quand même. Il a été abattu par son dresseur, criblé de plusieurs balles, alors que Lévi voulait simplement être libre, chercher la liberté, comme tout animal sauvage qui essaie de résister le fait, quoi. Le fait, quand c'est possible, il le fait, voilà.
Et quand le dresseur dit, moi, c'est indécent. C'est comme les affiches, les affiches 100% de cirque. Venez voir, alors comment ils appellent ça? La complicité entre l'homme et l'animal, je trouve ça indécent.
Indécent.
Et quand le dresseur de Mévi dit qu'il aimait sa tigresse et que c'est lui qui l'a nourrie au biberon, mais le problème il est là, c'est que c'est pas à lui de nourrir au biberon un tigre, c'est à sa mère. Donc le problème il est bien là, justement.
Bien oui, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est exactement ça. Il est déjà dès son plus jeune âge, il est asservi, donc il est asservi à l'homme.
Voilà.
Mais après bon, les gènes parlent, puisque comme vous dites, c'est pas avec quelques années qu'on change l'instinct d'un animal, d'un prédateur, enfin d'un animal sauvage, quoi. Donc voilà. Donc il était là. Dès le plus jeune âge, on voit qu'il est asservi avec le biberon déjà pour commencer, puisqu'il maîtrise son alimentation. Donc vous imaginez après le reste comment ça peut se passer. Voilà. Et je rappellerai l'histoire, je sais pas si vous l'avez vu, de Taïk, l'éléphant, en 1994 à Hawaï, là, au cours d'une représentation, qui a réussi à s'échapper. Pendant une quinzaine d'années, a été battu et torturé, quoi, voilà. Et ces conditions, voilà, qui sont les conditions d'éléphants dressés en Thaïlande, d'ailleurs, dans d'autres pays. Et donc, la vidéo montre ce pauvre éléphant de taille qui s'échappe du numéro, qui, au passage, donc, tue un dresseur et puis écrase diverses personnes et s'enfuit pendant des kilomètres et des kilomètres au travers d'Honolulu, quoi. Et donc, et ensuite, elle finit. Tenez-vous bien, quoi. Il y a des vidéos qui circulent, bon, mais c'est insoutenable, quoi. Elle finit criblée d'une centaine de balles, quoi. D'une centaine de balles, vous vous rendez compte? Criblée d'une centaine de balles, voilà. Par la police.
Mais il voulait juste retrouver sa liberté, c'est tout.
Voilà, voilà, tout à fait. Voilà, il voulait retrouver sa liberté. Donc ça montre bien que dans les cirques, l'animal sauvage simplement n'est pas possible. Voilà. Et là, est-ce qu'il faut attendre des années? Enfin, il faudra attendre un accident important, c'est-à-dire que une personne du public soit tuée ou soit blessée gravement, pour que le pays légifère. Voilà, le gouvernement légifère. Est-ce qu'on va en arriver là? Voilà. Enfin, je voulais faire juste.
Oui, non, mais tout à fait.
Voilà,
il y a Mitcha aussi, Mitcha, l'ours qui était pleine de tumeurs, où les services vétérinaires. enfin bon,
exactement,
est-ce qu'on peut, sous la tutelle des circassiens, on trouvait que tout allait bien et on a pu la sauver, sauf qu'elle est morte très peu de temps
après
parce qu'elle elle avait des tumeurs partout. Voilà. Et soi-disant, d'après les services vétérinaires agréés par je sais pas qui, tout allait bien. Voilà. Donc,
tout allait bien. Ça montre bien que ces gens-là
c'est pareil, il faut voir le.
À 4 sous pour payer un vétérinaire pour pouvoir le soigner.
Et le visage de ces ours, il y en a encore deux autres, mais le visage de Mitcha, il y a eu une vidéo de One Voice où ils ont pu la filmer avant qu'elle soit libérée. C'est bouleversant, vraiment bouleversant.
Oui, à ce sujet-là, d'ailleurs, nous avons fait une manifestation à Montflanquet, là, avec l'ours Valentin et son dresseur Fesneau, voilà, qui dit que tout va bien, voilà, tout va bien, c'est merveilleux, c'est fantastique. Il nous a fait une manifestation à Montflanquet, et Madame le maire, d'ailleurs, nous a reçus en nous précisant que l'année prochaine, parce que là, c'était mon tour d'ours aux journées médiévales, parce que, bon, les journées médiévales ont besoin d'un ours, chercher l'erreur. Mmh. Et donc, voilà, et donc la mairie, avec l'association concernée, qui présente des spectacles, qui propose des spectacles pour ces journées médiévales, s'est engagée devant les médias et devant Paris Animosopolis, puisqu'on a manifesté à cette occasion-là, à l'occasion de la venue de l'ours Valentin, et s'est engagée à ce que l'année prochaine, il n'y a plus d'ours à Montflanquet.
Voilà, donc c'est important.
C'est important
de le dire.
Oui,
voilà.
C'est important de le dire, et de diffuser l'information, puisque là, elle a pris l'engagement, donc on va suivre que l'engagement soit tenu, bien sûr.
Ouais.
Bien sûr.
On fait alors très, très, très rapidement une présentation, mais très rapide, et on fera une autre émission. Du livre Zoopolis, mais très rapide.
Très rapide, voilà. Mais Zoopolis, je veux parler du livre Zoopolis de Will Klimlinka et Sue Donaldson, qui est une théorie politique des droits des animaux, très avant-gardiste. Alors, c'est comment faire coexister l'espèce humaine et l'espèce animale au sein d'une même société en tenant compte de leurs intérêts respectifs. Voilà. Parce que défendre des animaux en se bornant à des intérêts et à énoncer des interdits ne permet pas de promouvoir une société plus juste à leur égard. Voilà. Et les théories classiques des droits des animaux servent à dénoncer les violences qu'ils subissent, mais dans les faits, les animaux sont encore traités finalement comme des objets et des simples moyens au service de nos fins. Voilà, c'est ça. Donc là, les auteurs retracent effectivement le chemin accompli depuis 40 ans, mais ils veulent aller plus loin et proposent une première théorie relationnelle des droits des animaux, en définissant des obligations concrètes, oui, des obligations concrètes que nous avons à leur égard. Voilà.
Et c'est ce que vous disiez, c'est des droits positifs.
Des droits positifs, voilà, c'est-à-dire des droits positifs, c'est-à-dire, bon, les animaux sauvages, on va leur accorder, ils ont un territoire propre à eux, donc ils doivent être, menacés et accaparés par l'être humain. La planète n'appartient pas à l'être humain, quoi, elle est aussi aux animaux.
Tout à fait.
Qui ont leur intérêt propre, voilà.
Tout à fait.
Et donc, ces deux chercheurs ont quand même une théorie importante, déjà en classant les animaux en trois catégories, parce qu'il y a les animaux sauvages, d'accord, les animaux domestiques qui vivent avec l'homme auprès de l'homme, etc., mais les animaux liminaires qui vivent auprès de l'homme, mais sans contact réel avec l'homme. Je citerai les pigeons, les étourneaux, les rats, les souris, les corbeaux, enfin d'autres espèces d'animaux, quoi, qui vivent auprès d'autres animaux, voilà, qui vivent auprès de l'homme, mais sans jamais, comment dire,
côtoyer. Ouais. Ce qu'on fait, moi, je vous propose une autre émission sur Zoopolis, parce que moi, j'avais commencé à lire un résumé, et puis après, le livre est sorti dans sa traduction complète, donc je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais moi, je vous propose le rendez-vous est pris quand vous vous sentez prêt. Vous nous présentez Zoopolis avec ça serait vraiment avec joie, parce que c'est vraiment un livre très 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 intéressant et qui va très loin.
Voilà. Ah oui, qui va très loin.
Voilà. Et qui change complètement l'optique justement de notre rapport aux autres êtres vivants.
Tout à fait. C'est un livre qui est un peu, c'est des chercheurs, ils ont creusé vraiment le sujet. C'est un pavé de 400 pages, près de 400 pages. Et donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'il va accorder des droits positifs à l'animal.
C'est
ça qui est important. Voilà, parce que là, on est dans le combat, mais finalement, on a des avancées, mais on voit que globalement, on est un peu au point mort et que la question doit être portée au niveau politique. On le voit, d'ailleurs, pour les cirques. Voilà.
On voit ça sur une autre émission, sans problème. Moi, je suis tout à fait OK.
Merci beaucoup.
Donc à bientôt.
Merci.
À bientôt. Et puis bonne journée, alors.
Bonne journée. Et puis merci aussi pour nous accorder la parole au niveau
politique. Non, mais c'est important. C'est important.
Sur l'antenne, voilà.
C'est important. Oui. À bientôt. Au revoir.
Merci beaucoup. À bientôt.
Au revoir. Vous êtes bien dans l'émission Combien de temps encore ? On va faire une pause musicale. Et ensuite, on rejoindra Philippe, donc de l'association Toulouse Animal Save.
Up your game to make it to the top, so go. Got a little competition, now you're gonna find out how to cope with living on your own. Little time to make a little better. It's all
Philippe, donc je te laisse te présenter et puis l'association dont tu fais partie.
Bon, bonjour aux auditeurs. Donc, je fais partie du collectif Toulouse Animal Save. Donc, nous avons créé l'antenne toulousaine avec Elodie et Joachim en septembre 2019. Donc, c'est une antenne qui vient rejoindre les 660 antennes des gens présentes dans le monde entier. Donc, le but de Animal Save Movement, c'est de témoigner des derniers instants des animaux avant de pénétrer dans l'enceinte de l'abattoir en rapportant des photos et des vidéos des victimes dans les bétaillères. Donc, pour cela, on organise des vigies devant les abattoirs. Et donc, lors de ces vigies, en plus de ramener, bien entendu, des photos et des vidéos, on essaye d'apporter du réconfort aux animaux, et éventuellement, selon les espèces, notamment quand on est confronté à des cochons, on essaye de leur donner à boire pour les désaltérer, notamment lorsqu'ils ont fait des convois en pleine chaleur. Voilà. Donc, la philosophie de ce mouvement, bien entendu, c'est on réalise les vigies dans la bienveillance, que ce soit envers les animaux, envers les chauffeurs et envers les employés de l'abattoir. Donc, Animal Save Movement a été fondé par Anita Krang en décembre 2010. Elle a commencé par l'inauguration de Toronto Pig Save au Canada. Il faut savoir que cette personne a été arrêtée pour avoir donné à boire à des cochons à l'intérieur d'une bétaillère lors d'une vigie devant un abattoir en juin 2015. Elle fut poursuivie pour crime et encourait une peine allant d'une amende et jusqu'à 10 ans de prison. Finalement, elle est reconnue coupable en mai 2017. Donc la compassion n'est pas un crime.
C'est aberrant.
Donc c'est important de préciser parce que c'est aberrant. Donc on voit un peu partout dans le monde, on a des retours de vigie parce que de par les réseaux sociaux, on peut suivre la plupart des antennes dans le monde. Et c'est vrai que dans certains pays, notamment au Royaume-Uni, ça se passe plutôt bien. La législation n'est pas la même, il n'y a pas besoin d'autorisation, notamment pour aller faire des vigies dans les abattoirs. Donc c'est plutôt assez facile. Ils ont souvent affaire à des petits abattoirs de proximité où ils rencontrent directement les éleveurs. Voilà, c'est moins de grosses structures. Donc je vais maintenant parler un peu des vigies qu'on a pu organiser. Mmh. Donc on a organisé une première vigie le 4 novembre. Donc on peut considérer que ça a été une réussite car sur 10 bétaillères que l'on a croisées, on a réussi à en arrêter 8.
C'était à quel
à l'abattoir de Montauban.
À Montauban, voilà, d'accord.
À Montauban, voilà. Donc là, on a pu... on était un certain nombre de... presque une bonne vingtaine de militants. Donc on avait fait deux groupes. Un premier groupe au rond-point qui était juste avec des panneaux, donc dans un but de sensibiliser les passants et les automobilistes. Et le second groupe qui était à proximité de l'abattoir avec deux panneaux. Donc un panneau qui mettait « Laissez-nous 3 minutes pour leur dire au revoir ». Et un autre panneau qui précisait bien qu'on n'a aucune haine envers les chauffeurs. Et donc la technique, c'est de faire ralentir avec diplomatie le véhicule, instaurer le dialogue avec le chauffeur pour lui demander si on peut essayer de voir les animaux. Voilà. Donc la première vigie du 4 novembre, ça a été une réussite. Donc on a pu croiser une bétaillère, notamment avec 6 cochons. La plupart, c'était des petites bétaillères transportant soit une vache, un cochon, un veau. Et aussi, il y a eu un fait assez émouvant. Donc, on a croisé le regard d'une vache de 14 ans qui était amenée à l'abattoir par son éleveur. Donc, c'était un moment assez particulier. On se demande comment la personne qui a quand même, je pense, tissé des liens peut amener cette pauvre vache au bout de 14 ans la trahir en l'amenant à l'abattoir. Donc, on a eu une discussion un peu animée avec un éleveur, donc qui était assez virulent. On avait à peu près réussi à instaurer le dialogue, mais malheureusement, il a essayé de nous intimider avec son véhicule, c'est-à-dire qu'il nous a un peu foncé dessus pour qu'on puisse pas faire ralentir les bétaillères. Quoi. Voilà. Ça, c'était la première vigie. Donc la seconde vigie, donc c'est celle qui a fait quand même, on va dire, le buzz sur Internet avec presque, je dirais, au moins 300 000 vues. Donc là, c'était le 27 novembre. Donc, j'avais été contacté par le policier des renseignements territoriaux qui m'avait dit qu'éventuellement, il y aurait une contre-manifestation des éleveurs. Donc, on avait pris nos précautions. Donc, quand on est arrivé sur place, effectivement, on est allé voir qu'il y avait énormément d'éleveurs qui étaient rassemblés devant l'abattoir. Donc, par sécurité, On a préféré ne pas jouer la confrontation et ne pas se mettre à proximité de l'abattoir. Donc, on s'est tenu au rond-point. Donc, on était, je précise bien, non visible des éleveurs qui étaient devant l'abattoir. Et donc là, le but, on a essayé juste de faire de la sensibilisation avec les panneaux. Bon, malheureusement, ça n'a pas pu être possible parce que très rapidement, ils nous ont rejoints, quoi. Voilà. Donc, je vais maintenant parler un peu plus précisément de ce problème-là. Donc, c'était peu après 15 heures, une centaine d'éleveurs se réunit devant l'abattoir de Montauban pour nous empêcher de montrer le sort des animaux. Donc, résignés à militer sans prendre de risque, nous faisons le choix de ne pas aller devant l'abattoir et restons au rond-point juste avant à 200 mètres pour éviter la confrontation. Quelques minutes passent et les éleveurs rôdants contactent ceux qui sont en attente pour venir nous retrouver. Ils s'approchent, feignant d'entamer le dialogue, et commencent à nous attaquer. Ces éleveurs ont un seul but, empêcher de questionner nos habitudes. Pour cela, deux méthodes, l'intimidation physique et violente et la destruction des outils de communication. Toutes les pancartes ont été détruites et plusieurs téléphones ont été détruits et volés. On estime le montant des biens détruits et volés à 870 euros. Donc la finalité est de viser à vous empêcher de voir la réalité, c'est-à-dire la mise au monde d'animaux dont le seul but est de vendre leur corps contre de l'argent. Donc voilà, ça a été quand même quelque chose qui était très très violent, en sachant qu'ils étaient environ une centaine et qu'on était à peu près 12 militants, dont les trois quarts de femmes. Il y a eu quand même plusieurs femmes qui ont été jetées violemment au sol. Une femme qui a été menacée d'être déshabillée. Donc il y a eu, suite à cette agression violente, il y a eu une dizaine de plaintes. Donc pour dégradation, intimidation, menaces, violence en réunion, et la plus grave, je pense, incitation au viol. Donc c'est des faits qui sont quand même extrêmement graves au regard de ce qu'est une vigile, quoi. On est juste là pour les animaux, quoi. Tous les panneaux concernent les animaux, donc les messages sont pour les animaux et pour inciter à la compassion et l'empathie envers les animaux. Il n'y a absolument aucun message de haine ou de violence envers les éleveurs. C'est pour ça qu'on a été très très surpris et choqués, on va dire, de ces agissements, quoi.
Oui, de ce déchaînement de haine en face de manifestants non violents. Et...
Donc, c'est ça, mais surtout qu'en plus, je peux revenir là-dessus, parce qu'après, j'ai eu une petite discussion avec un éleveur qui était un peu moins surexcité, quoi. Et cette violence gratuite envers des militants pacifistes, c'est une violence mal orientée. Les militants de la cause animale sont là pour les animaux et non contre les éleveurs. Et quand on revient vraiment sur les causes de leur malaise, les problèmes financiers des éleveurs ont démarré dans les années 50 et 60 à partir des investissements de masse dans la mécanisation. Ces mêmes investissements qui rendent prisonniers les éleveurs d'un système dont ils ne peuvent s'extirper. Malheureusement, ne pouvant trouver d'ennemis avec un visage identifiable, ils ont considéré que les 0,3% de véganes sont responsables de tout leur malheur et du suicide des agriculteurs. Or, nous souhaitons que tout le monde puisse vivre en paix, animaux comme humains. Nous souhaitons ainsi aussi que tout le monde se sente bien et puisse faire ce qui lui plaît sans porter atteinte à l'intégrité d'un autre, animal ou humain, et c'est pourquoi nous continuerons à tenter de dialoguer. Ah, donc après, si tu as des questions sur...
Oui, alors après, il y avait aussi il y a eu aussi la demande d'une autre manifestation non violente.
Ouais.
C'est important, voilà, un refus d'autorisation de la préfecture. Je pense que c'est peut-être
ça.
Voilà.
Donc, à la suite de la vigie du 27 novembre, donc il était hors de question de céder sous les intimidations et la violence des éleveurs. Donc, bien entendu, nous avions déjà prévu de faire une vigie, donc qui était prévue pour le 4 décembre. Bon. Là, pareil, donc j'ai reçu un coup de fil du policier DRT qui suit le secteur, qui m'a averti qu'il allait y avoir une contre-manifestation, ce coup-ci éleveurs plus chasseurs regroupés, et que, bien entendu, suite à la vigie du 27 novembre et de ce qui s'était passé, il avait fait un rapport pour que le préfet puisse obtenir des CRS, une compagnie républicaine de sécurité, Et voilà, donc j'ai, au début, bon, il m'a un peu tenu au courant. Après, il m'a dit, je vous cache pas que ça tombe mal parce que le 4 décembre, on était la veille du démarrage de la grande manifestation du 5. Et donc, il avait peur, effectivement, qu'il ne puisse pas avoir au niveau de, du ministère de l'Intérieur, qu'il ne puisse pas avoir les forces requises. Mmh. Et c'est sûrement ce qui, s'est passé parce que le préfet s'est prononcé, il a pris un arrêté d'interdiction de manifester. Alors, dans un périmètre. Donc, qu'est-ce que c'est dans un périmètre? C'est-à-dire qu'effectivement, on joue un peu sur les mots. On n'a pas l'interdiction de manifester totale. Mais par contre, la manifestation perd tout son intérêt parce que il interdit un périmètre. Et ce périmètre, bien entendu, incluait, bien entendu, les abords de l'abattoir. Et c'était un périmètre qui était extrêmement large. C'est-à-dire qu'il y avait quasiment la moitié de Montauban interdit. Mmh, mmh. Donc ça n'avait plus aucun sens. Non, parce que il faut vraiment préciser que le mode d'action de Animal Safe Movement, c'est vraiment de faire des vigies pour témoigner du sort des animaux. Alors même si après on peut faire d'autres actions, ça c'est possible, mais le cœur des actions, c'est vraiment les vigies, être confronté aux victimes. Donc effectivement, vu l'arrêté, on a préféré ne pas y aller parce que ça n'avait plus aucun intérêt.
Oui.
Plus aucun intérêt.
D'accord. Ce qui s'était passé aussi pour le cirque Muller, hein, quand on a, il y a une il y a pas une interdiction totale, il y a une interdiction sur un périmètre donné. Et
oui,
donc voilà, on en a parlé avec Clément, tout à l'heure. Et
sauf qu'à la différence, c'est quand même que
il y avait une sensibilisation possible. Voilà, il y avait une sensibilisation.
Ah oui,
voilà,
parce qu'il avait pris un périmètre, c'était le périmètre interdit était beaucoup plus restreint qu'on a eu. Hein.
Oui, oui, et on pouvait.
C'était vraiment, c'était quasiment, j'ai encore le document, c'était quasiment toute la moitié de Montauban.
D'accord. Oui, et puis c'est ce que tu dis, par rapport à l'association, ça perdait complètement son sens pour...
C'est ça, le mode d'action, on pouvait plus vraiment s'exprimer par le mode d'action, c'est-à-dire la vigie, donc ça n'avait plus aucun intérêt, quoi.
Oui, tout à fait.
Il y aura sûrement une future vigile organisée.
Oui.
Donc, soit devant l'abattoir de Montauban.
Oui.
Soit devant l'abattoir de Castres. Donc, s'il y a des militants qui sont intéressés, je les invite à se rapprocher de la page Facebook Toulouse Animal Save.
D'accord. D'accord.
Et nous envoyer un message pour.
Je le mettrai sur le podcast. Voilà. Et ça, je le mettrai en plus sur le podcast. Ouais. Je le mettrai sur le podcast. Ouais. D'accord. OK. Bon, bah, écoute, super. Super.
C'est moi qui te remercie.
De rien. Et puis à bientôt et puis bonne soirée. Voilà.
Merci. Au revoir à tous.
Au revoir. Avant de conclure cette émission, je voulais vous parler du festival du film Greenpeace. Donc tous les ans, afin de permettre aux personnes de voter pour le meilleur documentaire, vous avez en visionnage libre 15 documentaires de vraiment grande qualité. Moi, j'ai commencé à en visionner deux. Alors, il suffit de taper « Festival Film Greenpeace » et vous pouvez les visionner librement jusqu'au 27 janvier, par contre. 27 janvier 2020. Je voulais également vous parler d'une pétition pour sauver 10 000 dromadaires qui doivent être abattus par le gouvernement australien parce que ces animaux ont soif et se dirigent vers des villages. Donc je crois que la décision a été prise et que la pétition tourne toujours pour abattre des individus qui ont soif, en fait. Voilà, en résumant. Donc, ce qui est quand même assez grave. Et puis, il y a aussi une pétition. Bon, il y en a plein, mais il y a une pétition aussi pour sauver des orques sur One Voice. Vous allez sur One Voice pour que il y a 4 orques de Marineland d'Antibes donc ce delphinarium prévoit de les envoyer dans un autre delphinarium en Chine aux conditions encore plus épouvantables. Et One Voice donc demande qu'elles ne soient pas envoyées en Chine, mais dans un sanctuaire. Voilà, où elle retrouverait une semi-liberté. Bon, après, il y en a plein des pétitions. À chaque fois, dans le podcast, je vous mets les principaux sites, mais c'est toujours les mêmes. Voilà, One Voice, PETA, 30 millions d'amis. Et vraiment, il faut les signer, ces pétitions. Elles ont vraiment une grande importance. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis donc au mois prochain.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.